Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Les déficits de la vieille Europe en question. Mais de quel déficit parle-t-on ? Alors que les partenaires sociaux, les partis politiques et le gouvernement sont engagés en France dans un débat surréaliste sur le périmètre et le contenu d'une réforme des systèmes de retraite, que l'on sait par ailleurs incontournable, il est édifiant et peut-être salutaire de prendre la mesure du regard que porte le reste du monde sur le, entre guillemets, modèle social européen. Attardons-nous un instant donc sur deux observateurs parmi les plus avisés, la presse internationale et celui de la nouvelle hyperpuissance mondiale, c'est-à-dire les marchés financiers. Ainsi, le New York Times, sous la signature de Steven Erlanger, faisait remarquer que la crise des déficits européens pouvait sonner le glas de l'État-providence. L'éditorialiste ne manque pas en effet d'arguments. Dans toute l'Europe occidentale, la superpuissance autoproclamée de la qualité de vie à l'européenne, toutes les avancées que l'on considère syndicalement comme des droits acquis et comme autant de raisons de fierté sont déjà remis en cause. D'ailleurs, chez les membres les plus vulnérables des pays, on compte déjà des premières victimes en raison de leurs dérives passées. Recul de l'âge de la retraite, baisse des salaires des fonctionnaires, plan d'austérité, etc. Adieu donc, longs congés payés, retraite précoce, assurance maladie généralisée, prestations sociales ultra généreuses. Un à un, les éléments du modèle social, érigés en bannière, sont passés au rabot ou à l'essoreuse. La vox populi en oublie au passage, et c'est heureux pour les dirigeants en place, que nombre de ces avantages, entre guillemets, doivent aussi leur existence à la facilité offerte dans le domaine de la défense et de la sécurité, aux généreux parapluies nucléaires américains et aux largesses de l'OTAN. Mais ceci est un autre sujet. Or, ces privilèges sont remis en question alors même que les taux d'imposition atteignent des niveaux très élevés et que la France, hélas, figure dans les premiers rangs du palmarès avec près de 48%. Ainsi, ces politiques dispendieuses qui ont permis d'accompagner pendant des décennies les Européens du berceau jusqu'à la tombe dans un filet de sécurité qui protège, selon la formule érigée en slogan par l'Europe, atteignent des limites physiques et psychologiques et restreignent terriblement les marges de manœuvre futures pour la mise en place et le développement de plans de soutien pan-européens, de redressement des finances et des endettements publics. Tous les gouvernements de la zone euro sont confrontés à la même crise, celle de l'endettement et des déficits, alors même que les budgets déjà mis en œuvre atteignent des sommets et que les recettes fiscales sont en baisse. Mais le pire est à venir. Il réside dans le vieillissement inexorable de la population européenne, phénomène dont on peut mesurer à l'exemple du Japon, en dépression depuis deux décennies, les effets cruellement pervers. Non seulement il alourdit les charges sociales à venir, mais il altère leur capacité de réforme et l'esprit d'entreprise. Et au bout du bout, la croissance. Ce sont en effet rarement les seniors qui innovent et réforment. La seconde vie, celle de la retraite, dont Yvon Gattaz décrit avec humour tous les charmes, peut être sans doute un succès, mais certainement pas pour impulser le changement. Du côté des marchés financiers, devenu, il faut bien en convenir, avec la globalisation et la financiarisation de l'économie mondiale, la nouvelle hyperpuissance planétaire, incontournable même par les États, serviteurs obligés par le laxisme de leurs dettes. Le message du côté des marchés financiers est absolument le même. Perte de confiance, l'addition est lourde. Après la Grèce et l'Italie et le Portugal, l'Espagne vient de subir une sévère déconvenue en voyant sa note souveraine dégradée par l'agence de notation Fitch. Alors même que son ratio d'endettement du PIB est inférieur à bon nombre d'États européens, dont celui de la France. En réalité, contrairement à un discours redondant, l'euro ne protège plus. Les écarts de prix à payer sur les dettes publiques deviennent préoccupants, pour ne pas dire insupportables. Et ce sera encore pire à l'avenir. Entre le bon élève allemand qui emprunte à moins de 2,5% sur 30 ans et le mauvais qui paye 200 à 300 points de base de plus, le fardeau de service de la dette est pour les uns une chance de redressement et pour les autres une condamnation à terme. Reste à savoir si les marchés financiers reprendront ou répliqueront l'observation de Keynes qui considérait que, bien souvent, comme dans les concours de beauté, le choix se fait par renoncement sur celui qui présente le moins de défauts. La seule leçon qui mérite d'être retenue, c'est que, au-delà des déclarations et des appels à la rigueur, la confiance n'est toujours pas au rendez-vous avec les marchés financiers. La grande déprime se poursuit avec des craintes qui portent à la fois sur les risques de défaut des dettes souveraines européennes, mais aussi sur les conséquences paradoxalement, des plans de rigueur sur la croissance future. Un cercle vicieux s'est progressivement installé dans le raisonnement des opérateurs des marchés financiers et les dirigeants européens se montrent incapables de démontrer leur volonté commune et coordonnée en temps utile de redressement de la situation dégradée, mais aussi et surtout sur leur capacité de pilotage dans des zones de haute turbulence qui additionnent une nécessité de rigueur et une obligation de croissance. Les plans d'austérité dont les annonces se succèdent ne font que raviver les inquiétudes sur la zone euro. Retrouver la confiance du reste du monde et des marchés nécessite plus que de la technique ou de la politique, mais du volontarisme, du courage et du bon sens. En effet, les premiers déficits que l'Europe devra combler, et ce n'est pas celui de son budget ou de son endettement, c'est bien celui des réformes. Le déficit des réformes rattrape la vieille Europe. Le taux de croissance et de natalité faible et une espérance de vie en hausse ne permettent plus à la vieille Europe de conserver son mode de vie confortable sans une cure d'austérité et des réformes majeures. Quelques chiffres en soulignent la gravité. Dans l'Union européenne, les dépenses publiques sociales sont passées de 16% du PIB en 1980 à 21% en 2005, contre près de 16% aux USA. C'est déjà beaucoup, mais en France, elle s'élève à 31%, le record d'Europe, dont plus de la moitié pour la retraite, le reste bien du social. Nous sommes actuellement en mode de sauvetage, il va falloir passer en mode de transformation, et la société qui commence à comprendre qu'il n'y aura pas d'alternative, ce qui suscite chez elle pessimisme et colère, et paradoxalement de tous les corps sociaux. Le temps du volontarisme politique est venu pour les gouvernements européens, sous le regard inquiet des générations futures. Thank you.